tous. Je voudrais vous dire d'abord la joie que j'ai d'être au milieu de vous. J'avais entendu parler de vous par mon époux, mais là, je vous vois. Et c'est bien mieux encore. Je sais qu'il a déjà donné pas mal de mon témoignage, alors je ne vais pas me répéter, parce que vous savez déjà les choses que le Seigneur a faites pour moi. Je voudrais vous dire comment j'ai découvert l'Évangile. À ma naissance, j'ai hérité de la religion de mes parents, et donc ils m'ont appris à croire que Dieu existait. Pendant mon enfance, mon adolescence, j'ai suivi les offices de ma religion, je faisais ce qu'on me demandait de faire, un point c'est tout. Je savais que Dieu existait, mais voilà, j'avais une religion, mais je n'avais pas de relation avec Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Et puis, à l'âge de 16 ans, le Seigneur a permis que j'entende l'Évangile. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur, bien sûr, connaît les choses longtemps à l'avance, et il sait qui va accepter sa parole, qui ne va pas l'accepter. Et je crois que lorsqu'il sait que quelqu'un va accepter sa parole, alors il conduit les circonstances de la vie de cette personne pour qu'elle soit placée un jour face à l'Évangile, pour qu'elle entende la parole de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'habitais dans la région rouennaise et pendant les grandes vacances, j'avais donc 16 ans, pendant les grandes vacances, je suis descendue donc en vacances chez une de mes tantes qui habitait à Béziers. Et pendant mon séjour chez cette tante à Béziers, il y a eu une autre personne de leur famille, de la famille de ma tante et de mon oncle, qui elle habitait à Lyon, qui était chrétienne, et qui est venue justement à ce moment-là chez mon oncle et chez ma tante, et elle leur a parlé du Seigneur. Et moi, j'étais là présente. Et elle leur a dit, ce serait bien que vous fassiez venir le pasteur chez vous pour qu'il vous explique l'Évangile, qu'il vous parle de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Et à cette première rencontre avec le pasteur, moi, j'étais là présente. Et j'écoutais. Le pasteur a parlé du Seigneur, il a parlé de tout ce que le Seigneur pouvait faire dans une vie. Et après l'entretien, il y a eu le moment de prière, donc on s'est tous recueillis. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose que moi, sur le coup, je ne comprenais absolument pas. Mais je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me demandais même ce qui m'arrivait, mais j'étais incapable de m'arrêter de pleurer. Et maintenant, bien sûr, avec le recul, je sais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a saisie à ce moment-là. Le Seigneur a ouvert mon cœur. Donc, le pasteur nous a invités à venir aux réunions, c'est ce que nous avons fait. Et nous n'avons manqué aucune réunion. Nous allions écouter l'Évangile. Cela nourrissait notre âme, notre cœur, et moi j'ai ouvert tout grand mon cœur au Seigneur. Je savais que c'était là la vérité, et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur a pardonné tous mes péchés, et non seulement il a pardonné tous mes péchés, mais il m'a libérée du pouvoir du péché. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire, quand on est libre de ne plus pécher. Je suis donc, après ce séjour à Béziers, je suis rentrée chez moi, donc dans la région de Rouen. Et là, j'ai cherché une église. On m'avait donné l'adresse, mais je ne savais pas exactement où c'était. Donc, j'ai cherché l'église et j'ai suivi les réunions de l'Assemblée. Au bout de quelques mois, je me suis engagée avec le Seigneur parce que, bien sûr, quand on se convertit, la suite logique, c'est d'être baptisé. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis engagée avec le Seigneur. Le Seigneur avait bouleversé ma vie, il avait mis la paix, la joie dans mon cœur, c'était merveilleux. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas d'épreuves, hein, vous le savez bien. Mais quand on a nos épreuves, on a quelqu'un de puissant, de tout puissant avec nous. Et c'est ça qui fait la grande différence. Donc, je ne vais pas revenir sur le témoignage de l'acide, puisque je sais que mon mari vous l'a raconté. Je vais vous raconter le témoignage de la guérison d'un de nos enfants. Je ne pense pas que tu l'aies raconté. Quand notre deuxième fils avait 2 ans, en lui faisant sa toilette un matin, je me suis rendu compte qu'il y avait des vaisseaux qui commençaient à éclater sur ses jambes. Et au fil de la matinée, on a vu que les vaisseaux éclataient de plus en plus, que ça gagnait donc toutes les jambes et ça commençait à gagner le corps. Alors naturellement, on a fait venir le médecin. Quand le médecin a vu l'enfant, il a dit « ça peut être 3 choses différentes. Ça peut être la leucémie, ça peut être un purpura infectieux, ça peut être un purpura rhumatoïde. Mais de toute manière, c'est grave et c'est assez grave pour... Il faut mettre l'enfant à l'hôpital, il faut l'hospitaliser d'urgence pour qu'on puisse lui passer des examens et savoir exactement à quoi s'en tenir. » C'était dans la période juste avant Noël. Alors, mettre un enfant, un petit comme ça, de 2 ans à l'hôpital, juste dans cette période-là, même si ce n'est pas cette période-là, mais bon, mettre un enfant à l'hôpital, on sait ce que c'est et on sait que c'est terrible. Donc, les examens ont été faits et rapidement, les médecins nous ont dit « c'est un purpura rhumatoïde, il va falloir de longs mois pour que l'enfant guérisse et pendant ces longs mois, il faut que l'enfant reste couché. » Donc, vous imaginez un petit de 2 ans rester couché comme ça pendant de longs mois. Et on l'a hospitalisé un samedi matin. Le dimanche matin, mon mari était dans son bureau avant le culte, priant le Seigneur et pleurant aussi devant lui à cause de la peine qu'il avait et du souci qu'il avait pour son petit. Et à ce moment-là, le Seigneur a dit dans le cœur de mon mari, Arnold, donc c'est le prénom de notre fils, Arnold ne t'appartient pas. Donc, on ne savait pas quelle serait l'issue de cette épreuve-là. Et on a prié, bien évidemment, on a beaucoup pleuré, mais on a beaucoup prié aussi, demandant au Seigneur de faire grâce. Le mardi midi, à Rouen, il y avait donc toute l'équipe pastorale, l'équipe de 7 pasteurs, qui se réunissait tous les mardis midi, dans le jeûne et dans la prière. Et ce mardi-là, pendant ce temps de jeûne et de prière, le Seigneur parle à nouveau au cœur de mon mari et il lui dit « Ton enfant sort demain de l'hôpital. » Alors mon mari se dit « Mais en principe, il y en a pour de longs mois. » Et le Seigneur lui dit, « Ton enfant sort demain de l'hôpital. » Pendant que mon mari était au jeûne et à la prière avec les autres pasteurs, moi j'étais partie à l'hôpital pour rendre visite à notre enfant. Et quand je suis arrivée, le grand professeur du service de pédiatrie m'appelle, il me dit, « Madame, est-ce que vous pouvez passer dans mon bureau ?» Alors je dis, « Oui. » Il me dit, « Écoutez, la fièvre a baissé. » parce qu'il était monté à 40 de fièvre. La fièvre a baissé, le purpura est en train de régresser, donc en principe, on vous rend votre enfant demain. Ça correspondait tout à fait à ce que le Seigneur avait dit à mon mari. Donc le lendemain, vous pensez bien qu'on est allé chercher l'enfant. Oui. Et puis, juste avant de partir, l'infirmière chef du service nous dit, vous savez, si vous surveillez bien votre enfant, si vous voyez les articulations gonflées, Si vous sentez que ça ne va pas, surtout vous nous ramenez l'enfant en urgence. Mais nous, on savait bien que ça irait bien, puisque le Seigneur avait dit « ton fils sort demain ». Si ça avait été pour le ramener, hein, bon. Donc, ce que le Seigneur fait, il le fait parfaitement. On a sorti l'enfant, on a pu fêter Noël avec lui, et l'enfant n'est jamais retourné à l'hôpital, parce que tout simplement, le Seigneur l'avait guéri complètement. Que le Seigneur soit béni.
Ensemble. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Alléluia. Tous nos problèmes, il les
de nous trouver avec vous pour cette mission. Rassurez-vous, vous avez eu du soleil aujourd'hui, mais à partir de demain, vous aurez de la pluie. Parce que chaque fois que j'arrive quelque part pour une mission, j'amène la douceur normande. Il pleut. D'ailleurs, Manel, à Perpignan, m'a dit, quand c'est un peu trop sec, les agriculteurs disent « quand est-ce que Balière arrive ?» Cela dit, je vous salue très chaleureusement dans le nom de Jésus, heureux de partager avec vous la communion fraternelle, la présence de Dieu, la parole de Dieu durant ces quelques jours. C'est vrai que les événements se précipitent, ça n'arrête pas. Il y a eu et il y a les bouleversements dans certaines nations arabes. Et des choses vont se mettre en place et se durcir contre Israël, c'est une évidence. Et puis il y a ces cataclysmes qui se succèdent les uns aux autres. Nous avons là l'accomplissement des prophéties de Jésus concernant les temps de la fin. Il a dit entre autres, il y aura des tremblements de terre. Il a dit aussi, il y aura de l'angoisse chez les nations. Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et quand une vague de 10 mètres arrive sur le rivage et balaye tout sur son passage, on a du mal à ne pas voir là l'accomplissement à la lettre des paroles de Jésus. Ce qui m'inquiète, et je le disais aux frères à table ce soir, c'est que quand il y a eu des années en arrière la guerre des 6 jours, les salles de réunion, je parle de nous les sédentaires, se sont remplies en quelques jours. Des chrétiens qui avaient plus ou moins délaissé l'église, qui étaient devenus des chrétiens du dimanche matin, sont revenus aux réunions de prière, sont revenus soutenir l'évangélisation, sont revenus à l'étude biblique parce qu'on se disait « le Seigneur revient bientôt ». Quelques dizaines d'années se sont passées, des événements se précipitent plus importants que les uns que les autres, mais plus rien ne bouge. Nos salles ne se remplissent plus pour autant. Ceux qui vivent dans la tiédeur quant à la piété, à la rencontre avec le Seigneur, à la prière, ne changent rien à leur façon de vivre. Les chrétiens qui sont partagés entre le Seigneur et le monde continuent à l'être. On sent qu'il y a un pas de plus de franchi dans les temps de la fin aussi dans ce domaine-là. Il y aura des temps difficiles, a écrit l'apôtre Paul. Les hommes auront l'apparence de la piété, mais vont renier ce qui en fait la force. L'apostasie est en train d'envahir à grande vitesse le peuple de Dieu d'Occident dont nous faisons partie, et il me semble qu'il faudrait entendre avec les oreilles du cœur la voix qui se fait entendre dans la nuit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre », et que nous fassions partie de cette Église, l'épouse bien-aimée, la femme de l'agneau, qui se prépare pour les noces, qui se prépare, afin que lorsque Jésus va paraître, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui, mais debout pour notre héritage. Je ne sais pas comment vous vous apprêtez à vivre cette mission, mais elle va être ce que chacun va la faire. La mission, j'ose le dire, ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de nous, de nos dispositions de cœur. Si nous ajoutons 3 ou 4 réunions à un programme habituel, je crains que dimanche soir, bien d'entre nous n'auront pas avancé d'un millimètre dans les choses de Dieu. Mais si notre cœur a soif du Dieu vivant et que nous soyons là avec le désir que Dieu fasse quelque chose dans notre vie pour que nous avancions dans cette mission, alors je crois que le Seigneur veut et peut bénir. Amen. Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Je glorifierai la place où reposent mes pieds. » Je glorifierai la place où reposent mes pieds. Si nous permettons à Dieu dans cette mission de nous visiter, comme il l'a dit, de marcher au milieu de nous, d'habiter avec nous. Si pendant cette mission, il parvient à poser ses pieds dans ces réunions que nous allons vivre, dans nos foyers, dans nos cœurs, alors il va glorifier la place où il fait reposer ses pieds. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a des choses étonnantes, insoupçonnées, qui peuvent se produire pour l'honneur de son nom. Et nous aspirons à cela de tout notre cœur. Quand nous nous sommes vus la dernière fois, nous avons parlé d'Élie. Dans cette mission, j'aimerais vous parler de David. Mais un tout petit peu, parce que pour parler de lui tel que la Bible en parle, il faudrait bien des mois. Simplement voir avec vous ce qu'a été le départ de sa vie, son appel, son onction, et puis le grand combat qu'il a livré, ça a commencé comme ça, contre Goliath. Et si déjà on arrive à voir ça, ce sera bien. Mais j'aimerais ce soir introduire le sujet en ne parlant pas vraiment de David, mais de Samuel. Ce qu'a été le problème de Samuel quand il s'est agi de faire l'onction du futur roi qu'était le jeune David. Alors j'aimerais lire avec vous ou pour vous dans le premier livre de Samuel au chapitre 16. Premier livre de Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit : Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit : Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras : Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent : Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit : Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab : Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit : L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit : L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe : L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe : Sont-ce là tous tes fils ? Il répondit : Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe : Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Je vous propose que nous nous recueillions quelques secondes et nous allons prier ensemble le Seigneur. Nous savons bien, Seigneur, que la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Et nous voudrions de tout notre cœur que tu visites ce lieu de réunion ce soir et chacune de nos vies. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, tout est vain. C'est pourquoi nous réclamons le ministère de l'Esprit au milieu de nous. Qu'il nous ouvre notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous rappelle les choses que Jésus a enseignées, qu'il prenne de ce qui est à Jésus et nous l'annonce, qu'il y ait ton onction sur l'auditoire qui écoutera ta parole ce soir. Aide-nous encore à la recevoir comme elle en est digne. Aide-moi à prêcher ta parole comme il convient, avec l'aide surnaturelle du Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, que les intentions de l'Esprit aboutissent, et que les désirs de l'Esprit soient satisfaits, et que nous vivions cette réunion sous la souveraineté absolue de l'Esprit, qu'aucune pensée ne s'élève contre ta volonté, mais que tu puisses agir avec force dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous être rassemblés pour devenir meilleurs, et nous te remercions pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Quand il s'agit des pensées humaines, je dis bien des pensées humaines, même celles d'un juge et d'un prophète comme Samuel, nous remarquons dans notre texte que ces pensées ne sont pas meilleures que chez tout autre être humain. Et que nous avons besoin de veiller chacun pour notre part. Le texte qui a été lu ce soir me semble nous enseigner deux grandes leçons. La première, c'est que dans les choses de Dieu, on ne peut pas se fier au jugement humain. La seconde grande leçon, c'est que en ce qui concerne l'œuvre de Dieu et ceux qui doivent l'accomplir, il y a une différence énorme entre les critères humains et les critères divins. Ce ne sont pas les mêmes références, les bases de référence humaines et les bases de référence divines sont bien loin les unes des autres. Et le message de ce soir, je l'ai intitulé « Les pièges sur la route d'un prophète ». Les pièges sur la route d'un prophète. Et vous pensez bien que si un homme comme Samuel est tombé dans certains pièges, nous ne sommes pas à l'abri de quelques faiblesses. Et nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur pour que vraiment, dans l'intimité de sa communion, nous puissions accomplir sa volonté comme il le désire. Le premier piège dans lequel tombe Samuel, c'est celui que j'appelle le piège des sentiments. Le Seigneur est venu visiter son prophète. Et dans un moment d'intimité avec lui, le Seigneur a fait ce reproche à Samuel: « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté. » Il y a certes un point admirable dans l'attitude de Samuel. C'est sa capacité à pleurer sur celui que Dieu avait rejeté. Avouez qu'il nous est plus facile d'être dur, il nous est plus facile d'être sévère avec les pécheurs que de pleurer abondamment sur leur état. Et je dis que sur ce point-là, nous pouvons envier Samuel et demander à Dieu, par son esprit, un cœur capable de pleurer sur les pécheurs. lorsque l'apôtre Paul a rassemblé les anciens d'Éphèse, il leur a rappelé qu'il a servi le Seigneur en toute humilité et avec larmes. Paul avait un cœur. Il ne vivait pas dans la sensiblerie, mais il était capable de pleurer spirituellement pour l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons réclamer cela au Seigneur. Donne-moi un cœur qui ressemble à ton cœur. Donne-moi d'aimer l'Église. Et quand c'est nécessaire de pleurer sur mes frères, sur mes sœurs, rends-moi capable de le faire. La parole de Dieu nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, donne-moi un cœur passionné pour l'évangélisation. Donne-moi d'aimer les âmes comme tu les aimes et rends-moi capable de pleurer sur l'état des perdus, sur la perdition vers laquelle ils sont en marche. Que mon cœur ne s'enferme pas dans un confort spirituel, dans l'égoïsme, dans l'insensibilité, dans l'indifférence, mais donne-moi un cœur qui ressemble à celui de Jésus, selon qu'il est écrit « Ayez en vous les sentiments » qui était en Jésus-Christ. Mais je dis qu'il nous faut une juste mesure. Dieu est un Dieu d'équilibre, toujours. Il nous faut une juste mesure. Et il nous faut veiller à ce que le sentimentalisme dans nos vies ne l'emporte pas sur la spiritualité. Au moment où le Seigneur visite son prophète, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que Samuel n'est pas en harmonie avec les sentiments de Dieu. Et je vais m'expliquer là-dessus assez longuement, c'est un point important de notre vie spirituelle. Samuel est triste quand Dieu ne l'est pas. Samuel est triste quand Dieu ne l'est plus. Samuel pleure encore alors qu'il devrait s'être arrêté de pleurer depuis longtemps parce que Saül est rejeté. Mais Samuel continue à mener deuil sur Saül au point que Dieu doit le reprendre à ce sujet-là. Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Il me soit permis de vous dire, mes frères et sœurs dans la foi, qu'il y a dans nos vies des tristesses qui ne sont pas le reflet d'une haute spiritualité, mais au contraire, qui sont les manifestations de notre âme en décalage avec le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas en harmonie dans ces moments-là avec les sentiments du Seigneur, de la même façon que Samuel n'était pas en harmonie avec les sentiments du Seigneur, et vous allez voir que c'est plus grave qu'il n'y paraît au premier abord. Je remarque une autre chose, c'est que Samuel est dans la crainte quand Dieu est dans la joie. On va le voir, Samuel craint, alors que Dieu, lui, est dans la joie d'avoir trouvé un roi selon son cœur. Il a rejeté Saül, mais il peut dire à Samuel, « J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. » Et maintenant, je désire faire de tout cela une application pour votre vie et pour ma vie. Nous devons être extrêmement vigilant quant au mouvement de notre âme. Parce que les sentiments relèvent du domaine de l'âme. Je vais être simple, mais quand même, on va mettre sur le feu une bonne entrecôte ce soir. Nous sommes trois parties. Esprit, âme et corps. Le corps, on sait ce que c'est. L'esprit, c'est la partie de notre être invisible, spirituelle, qui est morte tant que nous sommes dans nos péchés. Quand nous nous convertissons, cette partie-là est rendue à la vie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie. Et cette partie-là est vivifiée par l'Esprit de Dieu. C'est la partie qui communie avec le Seigneur. C'est là que se situe le siège de notre vie spirituelle. Entre ça et le corps, il y a l'âme. C'est le siège des sentiments. Et vous allez comprendre qu'il est très important à cette partie-là, entre l'esprit et le corps, d'être en harmonie avec les sentiments de Dieu. Parce que l'âme va influer sur l'esprit. Et si nos sentiments ne sont pas en harmonie avec les sentiments de Dieu, comme pour Samuel, il va y avoir des répercussions catastrophiques. Le domaine de ton âme, mon frère, le domaine de ton âme, ma sœur, c'est un territoire extrêmement sensible. Les sentiments, je le répète, vont avoir des répercussions sur la vie de notre esprit. S'ils ne sont pas en harmonie avec les sentiments de Dieu, 1. Notre disponibilité entre les mains de Dieu ne sera plus la même. Samuel n'est pas disposé à aller oindre le futur roi. Il va discuter. Notre marche, notre service, notre obéissance vont être entamés, abîmés, et nous allons commettre des erreurs comme Samuel. Il faut que nous comprenions ceci, c'est que naturellement, l'homme n'est pas en harmonie avec le cœur de Dieu. Le Seigneur disait, par la bouche du prophète Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais alors le décalage, ce n'est pas quelques centimètres. Ce n'est pas quelques centimètres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, c'est à l'état naturel. Il faut donc que je travaille là-dessus en disant, mais il faut donc dans ma vie une action profonde de l'esprit pour m'amener jour après jour dans une communion intime avec le Seigneur. Il me faut une action de l'esprit dans ma vie pour m'amener dans une relation extrêmement profonde et intense avec le Seigneur. Pour qu'il puisse agir au niveau de mon âme, au niveau de mes sentiments, pour les amener à être en harmonie avec les sentiments de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, juste avant d'avoir dit ce que je vous ai dit là, le prophète Ésaïe dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Parce que justement, naturellement, vos pensées sont... Pff, à des milliards de kilomètres des pensées de Dieu. Et vos voix pareilles. Naturellement, c'est comme ça. Et le prophète lance cet appel, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et de là, l'explication de tous les problèmes que jouent nos sentiments dans la marge de nos églises. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur à leur façon, mais qui n'ont pas avec lui depuis fort longtemps une communion intime. Ils ne marchent pas étroitement attachés au Seigneur, et de ce fait, au niveau de leurs sentiments, il y a un décalage avec les sentiments du Seigneur et il y a des répercussions catastrophiques dans leur vie. L'apôtre Paul disait à la jeune église de Thessalonique que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il y a notre part, mais il y a aussi la part de Dieu et béni soit le Seigneur pour ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que l'une des grandes voies pour que Dieu agisse au niveau de nos sentiments, c'est que notre âme soit en permanence sous le contrôle, sous le gouvernement et sous le jugement de la parole de Dieu. Écoutez bien ça. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va nous faire mal. Parce que quand une épée pénètre, ça ne fait pas de bien. Pénétrant. Jusqu'à partager âme et esprit. Jointures et moelles, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu va, telle l'épée du Seigneur, agir dans ma vie pour séparer âme et esprit. Elle va séparer ce qui est sentimental de ce qui est spirituel. Et l'histoire de David commence dans le cœur d'un prophète qui est à côté de la plaque, où le Seigneur est obligé d'arriver avec sa parole, parce que le texte commence, l'Éternel dit, Dieu vient avec son épée qui est sa parole, et dans le cœur de Samuel, il va faire une opération indispensable, c'est séparer l'âme de l'esprit. Samuel, dans ce moment-là, tu n'es plus un homme spirituel, tu es un homme sentimental. Arrête de pleurer. Tu n'es pas en harmonie avec mes pensées, mes sentiments. Moi, je ne pleure plus. Alors, s'il te plaît, tu t'alignes sur mes sentiments. Arrête de pleurer. J'ai rejeté Saül. Maintenant, il y a une autre voie. J'ai un autre plan. Arrête de pleurer, il faut que tu rentres dans mon plan. Si je vis près de la parole de Dieu et que je la lise, que je la médite, comme il faut le faire, il y a bien des moments où le Seigneur va me dire « Mais pourquoi tu pleures ? Réjouis-toi !» Et la parole de Dieu va réajuster les choses. Ou Dieu va me dire « Mais pourquoi est-ce que tu te réjouis ? Tu ferais mieux de pleurer ?» Parce qu'il y a des moments, il ne faut pas se réjouir dans nos réunions. Il faut verser des larmes de repentance. Une réunion n'a pas toujours la même atmosphère. Je suis étonné, dans certaines églises, ça commence toujours pareil. C'est toujours l'euphorie au départ. Est-ce qu'on a réglé nos antennes sur les sentiments de l'esprit pour savoir si lui, à cette heure-là, il a envie de se réjouir de nous et avec nous ? Il est indispensable que, comme disait le prophète, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Seigneur, que ta parole amène un réglage quotidien dans ma vie, que j'apprenne à ne pas être une chrétienne ou un chrétien sentimental, mais un chrétien spirituel. Alors le deuxième piège, on n'est pas surpris, c'est le piège de la crainte des hommes. Samuel, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ben voilà, c'est très simple. Dieu a changé de plan, il bifurque, ça n'a pas marché avec Saül, il a vu quelqu'un qui va devenir un roi selon l'esprit. Alors Samuel, tu y vas. Mais écoutez-le, l'autre. Le bon prophète, parce que Samuel était un homme remarquable, mais là, ça ne va pas très bien au début. Il est tombé dans le piège des sentiments, maintenant il va tomber dans le piège de la crainte des hommes. Il se permet de dire au Seigneur, comment irai-je ? Tu me demandes d'aller, mais tu me demandes d'aller dans la gueule du loup. Saül n'est pas mort, il est encore sur le trône, il a sa cour, il a ses armées, tout est organisé, il a tout ficelé le royaume, tout est bien en ordre, et toi tu me demandes d'aller oindre un autre roi alors que celui-là n'est pas mort ? Mais comment irai-je ? Ah, ça va pas bien dans le cœur de Samuel au début, hein ? La crainte des hommes lui fait envisager le pire quand Dieu, lui dit d'aller. J'ai lu ce texte dans le livre des Proverbes. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Je vous lis le texte littéral en hébreu. La frayeur d'un être humain donnera un piège, et qui fait confiance à l'Éternel sera mis à l'abri. C'est un virus contagieux. Parce que on trouve ça déjà chez Moïse. Pourtant, il a passé 40 ans à l'école biblique du désert. Ce n'est pas deux fois deux mois à Gien, c'est 40 ans. Et après 40 ans, conversation entre le candidat et le Seigneur. Moïse, je t'enverrai chez Pharaon. Et tu délivreras Israël de l'Égypte. Eh bien, après 40 ans d'école biblique du désert, et après avoir entendu la mission que Dieu lui confie, le candidat soulève maintenant des objections. Sa faiblesse, c'est beau, écoutez-le parler, c'est magnifique. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Et qui suis-je pour délivrer Israël de l'Égypte ? Magnifique. Après, il y a la réaction du peuple. Ils l'envisagent. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, et ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Semble connaître le peuple. C'est un bon candidat, ça, hein ? Et puis, il y a son handicap naturel. Mais écoute, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. On a dit que Moïse était bègue. Merveilleux homme qui sent sa faiblesse. La vérité, c'est qu'il est en train de dissimuler sa crainte et son incrédulité sous des apparences d'humilité. C'est ça la vérité. C'est qu'il est comme Samuel plus tard, c'est qu'il a peur. Il vit dans la crainte des hommes. Alors Dieu vient au secours de Samuel. Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et là, dans ce tête-à-tête avec le Seigneur, la foi de Samuel est renouvelée par Dieu. Et Samuel finit par obéir. Il est dit dans notre texte, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Voilà, si c'est possible d'arrêter la réunion dans l'allée, là. Merci beaucoup. Au verset 4, il est dit « Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem ». Dieu a réussi à ramener son prophète dans la bonne voie. Il l'a ramené dans la voie de ses sentiments à lui, le Seigneur, et ensuite il le délivre de la crainte des hommes. Et bien qu'il en soit ainsi pour nous dans nos moments de défaillance. Que nous permettions à Dieu d'agir au niveau de notre âme et que nous permettions à Dieu de nous délivrer de la crainte des hommes et que nous puissions nous confier dans le Seigneur. Seigneur, que ce soit facile ou difficile, qu'il y ait des gens en face, des gens que je peux redouter, si c'est toi qui me dis d'aller, j'irai. Si c'est toi qui me dis de parler, je parlerai. Et je sais que je n'ai rien à craindre parce que je m'appuie sur toi. Une petite parenthèse. Remarquez, et c'est une façon de faire du Seigneur tout le temps, que la direction de Dieu dans nos vies se fait par étapes. Dieu dit à Samuel, je te ferai connaître, verset 3, ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Il sait qu'il doit aller à Bethléem, dans la famille d'Isaïe. Il sait que parmi ses fils, il y en a un qui va être roi à la place de Saül, mais c'est tout ce qu'il sait. Il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas son nom, il ne sait pas là où il se trouve. Dieu lui dit, tu vas là-bas et je te dirai à ce moment-là ce qu'il faut faire. Dieu ne nous dit pas tout de suite, parce que Dieu désire que nous restions dépendants de lui à chaque instant. Regardez l'appel d'Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et non pas que je te montre. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est parti par la foi sans savoir où il était, où il allait. Tu parles d'un voyageur. Même un manouche, il ne sait pas ça. Quand il part, il sait où il va. Abraham, lui, ne savait même pas où il allait. Eh oui, c'est Dieu fait comme ça. Pour nous obliger à être dépendants de lui, jour après jour. Pensez bien que si on savait tout de suite, on dirait maintenant, Seigneur, bon courage, on se reverra une autre fois. Maintenant, je sais tout, je n'ai plus besoin de toi. Non, 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 Dieu ne fait pas comme ça. Il nous en dit un petit peu, et puis il trace la voie au fur et à mesure. Alors il arrive avec sa vache. Les anciens, oulala, le prophète arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton arrivée, c'est quelque chose de bien? Oui. Quand on est délivré de la crainte des hommes, on rassure les autres. S'il était arrivé avec la crainte, il n'aurait pas pu rassurer les anciens. Quand vous avez la peur dans le cœur, comment voulez-vous rassurer les autres? Dieu sait ce qu'il fait. Il faut être guéri avant de guérir. Il faut avoir avant de donner. Alors Dieu commence par opérer la guérison chez son serviteur, et puis après il peut être utile aux anciens. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Mais oui, je viens pour offrir un sacrifice. Alors il a dû raconter l'histoire à Isaïe qui fait venir tous ses fils. Le premier rentre, un beau gaillard, Éliab. Et là, Samuel n'a pas besoin de l'inspiration de l'esprit. Il n'a pas besoin de Dieu quand il voit Éliab. Aussitôt, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Le troisième piège, je vais vous expliquer le mot après, c'est le piège des stéréotypes. Vous dire, c'est quoi ça? D'abord, vous dire ceci. Regardez comment parle Samuel. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Samuel a des certitudes, mais ce n'est pas les certitudes de Dieu. Décidément, hein, Dieu a du mal avec lui dans cette période-là. Hein. Il a des certitudes quant à l'homme choisi en voyant Éliab. Ben non, ce ne sera pas celui-là. Il a des certitudes quant à l'onction qui lui est destinée. C'est loin de l'Éternel. Ben non. Il a des certitudes quant à l'endroit où il se tenait. Loin de l'Éternel est ici devant lui. Eh bien non. David, celui qui va être oint, était bien devant l'Éternel. Mais l'Éternel était avec lui dans les champs. Et l'Éternel, pour l'instant, n'était pas dans la réunion. parce que le but de la réunion n'était pas atteint. Et quand le but de la réunion n'est pas atteint, Dieu n'est pas tout à fait là. Alors oui, il était avec loin de l'Éternel, mais dans les champs. Dans les champs. D'où vient l'erreur de Samuel? Et c'est là que je vais expliquer le mot stéréotype. L'erreur de Samuel, c'est qu'il s'est rappelé comment ça s'est passé avec Saül. Quand le peuple a demandé un roi, parce que ce n'est pas Dieu qui a voulu un roi, c'est le peuple qui en a demandé un. Et Dieu a dit, vous voulez un roi? Je vous en ai donné un, moi, un roi. Un roi selon la chair. Vous voulez un roi comme les autres nations? Pas de problème, je vais vous en donner un, formidable. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Oh, les filles du peuple gitan, si elles avaient vu Samuel, les regards auraient frisé sur Saül. Ah, le gars, il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Ça, c'est la chair. C'est la voix de la chair. Mais c'était le roi qu'on lui avait demandé d'oindre. Il voit Eliab, même schéma, un beau gaillard, une grande stature. Et Samuel est dans un schéma. Il s'enferme dans un schéma. Dieu a choisi Saül qui est de ce gabarit-là, donc il va choisir Eliab. Eh bien non, notre Dieu n'est pas un monument. Notre Dieu est un Dieu en mouvement. Et après le roi selon la chair, Dieu va se choisir un roi selon l'esprit. Et Samuel a tort de penser que Dieu s'enferme dans des schémas. Il a tort de penser que parce que Dieu a fait comme ça, Dieu fera toujours comme ça. C'est faux. Son discernement s'arrêtait aux mêmes qualités extérieures que Saül avait possédées. Et pourtant, Dieu va faire différemment. Attention au piège dans lequel est tombé Samuel. Ne disons pas dans telle épreuve, je m'en suis sorti comme ça avec Dieu, dans la prochaine ça va être pareil. Dieu veut que tu dépendes de lui. Bartimée crie sa misère. Jésus lui dit, appelez-le. Bartimée arrive devant le Seigneur. Que veux-tu que je te fasse, maître, que je recouvre la vue? Ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. Terminé. Il voit un aveugle né, il crache par terre. Il fait de la boue avec sa salive, il met ça sur les yeux de l'aveugle, il va à toi au réservoir de Siloé. Le gars, il n'a pas dit, pourquoi t'as pas fait pour moi comme Bartimée, c'était si simple. Pourquoi t'as pas fait comme avec l'autre? J'ai l'air malin maintenant avec la boue sur les yeux. T'as pas fait ça avec l'autre? Dieu fait ce qu'il veut. Mais les deux ont vu clair. Dans une certaine circonstance contre les Philistins, David consulte le Seigneur. Le Seigneur lui dit, je te les livrerai. Il y va, il les livre. Les Philistins, l'année d'après, reviennent à la charge. Et le Seigneur lui dit, tu ne vas pas les affronter par en face. Tu vas les contourner par derrière, puis tu vas écouter. Et quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu y vas, parce que c'est moi qui t'apporte la délivrance. Il faut avoir une oreille exercée pour entendre un bruit de pas dans la cime des mûriers. Il ne faut pas être en train d'être distrait à la réunion, il faut écouter, pour entendre le bruit de pas dans la cime des mûriers. Dieu ne fait jamais pareil. Dieu est un Dieu en mouvement. Et Samuel est tombé dans ce piège-là. Un autre piège, qui est très étroitement lié à celui-là, c'est le piège du regard charnel. Parce que quand il a vu Eliab, Dieu lui arrête avec sa arête. Ne prend pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Il avait une belle taille au milieu de ses frères, une certaine hauteur au milieu de ses frères. Mais Dieu n'avait rien à faire avec lui. Parce que Dieu connaissait son cœur. Vous le verrez devant Goliath. Heureusement que Dieu n'a pas choisi celui-là. Hein. Non, Dieu dit arrête avec son apparence, la hauteur de sa taille. Samuel, tu es pourtant prophète, mon prophète, mais toi tu regardes à ce qui frappe les yeux. Mais moi je regarde au cœur. Alors ce n'est pas un manquement positif chez Samuel, mais je crois que Samuel trahit à ce moment-là, par sa manière de penser, un état qui n'est pas celui d'une vraie communion avec Dieu. Parce que si Samuel avait été dans une vraie communion avec Dieu, il aurait tout de suite senti que Eliab n'était pas le gars choisi par le Seigneur. Alors Dieu va lui apprendre une grande leçon. Tu ne regardes pas l'apparence. Tu ne regardes pas la hauteur de la taille. Tu ne regardes pas ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. Job avait appris cette leçon. Quand il dit à Dieu, « As-tu des yeux de chair ? Vois-tu comme voit un homme ?» Mais Job savait bien que Dieu ne voyait pas comme les hommes voient. Jésus connaissait parfaitement le caractère du Père Céleste. Quand il s'adresse aux chefs religieux, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Il faut absolument que nous vivions près du Seigneur pour avoir du discernement. Le mot discernement, c'est la capacité de voir à travers, de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que j'entends, des belles paroles, au-delà de ce que je vois, mais que je puisse discerner avec l'aide du Seigneur ce qui est vraiment derrière tout cela, pour ne pas me laisser piéger. Et puis, mais là, ça va devenir bien. Samuel, cette fois, va éviter, enfin, un cinquième piège, c'est le piège de la logique humaine. Suivez-moi bien, c'est Sam comme bonjour. Il dit à Isaïe de rassembler ses fils. Il rassemble les sept fils. Quand il voit Eliab, il a failli se faire piéger, il a fallu que Dieu vienne à son secours, puis hop, arrête, c'est pas ça. Moi, je regarde au cœur. Donc, le deuxième passe, Abinadab, Shamma, en voilà déjà trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Il en reste un. Pas besoin de Dieu. Pas besoin d'inspiration. Il a demandé de rassembler les fils. Il en reste plus qu'un. Qu'est-ce qu'il a besoin du conseil de Dieu ? La logique veut que ce soit le dernier qui est là. C'est le septième, il n'y en a plus qu'un. Mais non. Heureusement que le Seigneur a rattrapé son prophète tranquillement et qu'au fur et à mesure de ce texte, Dieu l'a éduqué et il l'a attiré dans sa communion. Parce que là, j'admire Samuel. C'est le dernier. Donc il aurait pu penser effectivement que évidemment, c'est le septième que l'Éternel avait choisi. Pour le regard humain, il n'y avait plus que celui-là. Mais nous remarquons que Samuel a été replacé par Dieu dans la foi. Samuel a été replacé par Dieu dans la communion de Dieu et dans la sensibilité de l'esprit. Et là, je l'admire. Il dit, bah, écoute, je suis désolé, mon pauvre Isaïe. Mais c'est le septième et Dieu l'a pas choisi non plus. Paul disait, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il dit, nous renversons les raisonnements. Quand on a affaire à des armes spirituelles dans notre marche avec le Seigneur, on renverse la logique. On renverse les raisonnements. Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils ? Et dernièrement, j'ai fait une réunion de jeunesse et j'ai dit aux jeunes, est-ce que Dieu va dire à votre pasteur, est-ce que ce sont là tous tes jeunes ? Dieu n'en a pas choisi un seul. Il ne faudrait pas que Dieu dise ça d'un groupe de jeunesse. Il ne faudrait pas que l'Esprit de Dieu vienne dire au pasteur, c'est là tes jeunes ? Il n'y a vraiment que cela? C'est là ton Église qui se dit prête pour mon retour? Sont-ce là tous tes fils? Pasteur, sont-ce là toutes tes filles? Que nous puissions dire, Seigneur, oui, on est là, mais on est là comme des gens que tu ne vas pas rejeter, mais que tu vas accepter parce qu'on va mettre le paquet pour vivre une vie spirituelle à fond. Alors Isaïe dit, ah ben oui, c'est vrai, il y en a encore un. Le huitième, c'est le petit dernier, là, mais tu crois qu'il faut faire le venir, lui? Tu sais, c'est le petit jeune, hein, lui, bon, fait paître les brebis, quoi, il sent le mouton, hein. Bah écoute, tu le fais venir, parce qu'on commencera rien tant qu'il sera pas arrivé. On peut pas rien faire de bien dans le plan de Dieu tant que c'est pas au top, comme Dieu le veut. Alors on va rien commencer, c'est pas la peine de commencer quoi que ce soit, tant qu'il va pas être là. Alors je sais pas qui est allé le chercher, parce que là, du coup, la logique va fonctionner, hein. Celui qui était le chercher, il a dû se dire, bah, il n'y en a plus qu'un, là, cette fois, c'est sûr que c'est lui. Alors, on a dû dire au petit berger, écoute, quitte tes brebis, change de vêtements, lave-toi, mets-toi propre, parce que finalement, tu es invité à la fête de famille. Quoi. On ne t'avait pas invité, mais le pasteur, il te demande. Alors, David arrive, blond, enfin, je ne sais pas si je vous dirai deux mots là-dessus dans une prochaine réunion, de beaux yeux, ça recommence, une belle figure. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu le choisit. Il aurait pu être moche, ça n'aurait rien changé. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il entre, mais c'est quand même Dieu qui ouvre la voie, ce n'est pas Samuel avec la logique. Pourtant là, la logique, elle aurait pu fonctionner. Mais ce n'est quand même pas la logique qui va l'emporter, c'est toujours la voie de l'esprit. C'est Dieu qui dit à Samuel, lève-toi et oint-le, car c'est lui. Eh bien, je dis qu'à ce moment-là, Samuel triomphe d'un sixième piège. On me dirait, ah bon, il y en a encore un? Oui, c'est celui que j'appellerais le piège de la marche par la vue. Parce que Samuel pouvait considérer les circonstances actuelles et s'enfermer dans les considérations du temps présent. Il aurait pu se dire, Saül est rejeté par Dieu, mais il règne encore. Dans quelle voie on va se mettre là, en oignant David? Il aurait pu dire ce qui était vrai. D'ailleurs, on va bien voir l'école de Dieu pour David. Il ne va pas arriver au trône le lendemain. Il aurait pu dire, David est encore jeune. Il n'a pas l'âge d'accéder au trône. Est-ce que l'onction, c'est vraiment pour maintenant? Ça sert à quoi? Le trône, ce n'est pas pour demain. Il aurait pu sombrer dans les raisonnements. Il aurait pu se dire, David va-t-il être accepté par le peuple? Pour l'instant, le peuple a son roi. Qu'est-ce qu'on va oindre David?